Radio Potlatch 90.1 FM de la bande FM à la bande organisée. De la bande organisée à la bande FM.
Bonjour à tous, on reprend Potlatch en ce septembre 2016, c'est la rentrée de Potlatch, excusez-moi, et la rentrée du mouvement contre la loi travail. Pour commencer cette nouvelle émission, sachez qu'il y a deux nouvelles rubriques, la revue de presse par Auxilio et Yann, et une autre, 7 milliards de pervers sur les mille perversions de notre humanité. Dans cette émission, on abordera également ce qui s'est passé cet été à Bure, un reportage de Doc Duréel. On parlera d'À l'abordage, une tentative d'un groupe à Nantes aussi cet été pendant l'enterrement du PS fin août. Et aussi le mouvement dans les prisons aux États-Unis début septembre. Nous terminerons avec un petit texte de Rimbaud sur la démocratie. Donc aujourd'hui l'émission sera plus courte que les précédentes, mais ce sera pour mieux repartir en suivant. A tout de suite. Alors, la revue de presse, c'est à vous.
Alors, on commence cette revue de presse avec la rentrée du mouvement et les manifs de jeudi dernier. À Bordeaux d'abord, où 500 personnes ont rejoint la coordination jeune Place de la Victoire. L'intersyndicale, elle, avait refusé l'invitation et organisé sa propre marche depuis République. À la Victoire, plusieurs groupes et collectifs rejoignent lycéens et étudiants, puis forment un cortège en direction de République. La suite du récit, on vous la lit, c'est un article du blog Folklore du Quotidien.
L'arrivée de ce cortège jeune est presque héroïque. Ils sont accueillis par Solidaires qui leur réserve une chaleureuse ovation. Déjà les premiers slogans, cortège de tête, sont lancés. En tête de la manifestation, la CGT, appuyée par son service d'ordre, n'entend pas abandonner le premier rôle, et il faudra plusieurs dizaines de minutes pour que la situation se stabilise. Quelques noms d'oiseaux de part et d'autre et un entêtement de la centrale syndicale majoritaire de tous les instants transformeront ce triste épisode en faiblesse collective. Il y a là-dedans une question d'orgueil. La CGT n'accepte pas d'être relayée au second rang, qui plus est, au profit de jeunes autonomes qu'ils jugent désorganisés et anarchistes. Les autonomes, la coordination jeune, eux, ne veulent plus se laisser faire et comptent prendre les choses en main. Et il est vrai que cette jeunesse ne manque pas d'arguments face à une centrale syndicale qui organise tout au millimètre. On n'est pas venu là pour poser pour les photographes ni pour manger vos sandwichs merguez, lance l'un d'entre eux. L'incompréhension est totale, et deux mondes semblent s'affronter. Alors que la coordination est clairement dans le viseur de la police, la tête de cortège de la CGT se comporte comme des alliés des forces de l'ordre, n'hésitant pas à sortir manu militari des individus s'il le faut. Quoi qu'il en soit, le cortège reprend ses droits avec 500 personnes à sa tête. De manière incessante, le cortège syndical qui suit s'arrête afin d'isoler la tête de la manifestation. Dans les rangs des autonomes, ceci est clairement considéré comme une collaboration tacite avec les forces de l'ordre afin de faciliter une éventuelle nasse. Arrivés sur la place de la Comédie, CGT, FO, FSU stoppent la manifestation et n'iront pas plus loin. La porte-parole de FSU avance ses arguments. Les conditions pour poursuivre la manifestation ne sont pas réunies. Nous ne pouvons accepter que la tête de la manifestation soit ainsi prise en otage. Dans les rangs des manifestants, c'est l'éclat de rire. Il est vrai que Bordeaux peut se targuer d'être aujourd'hui la seule ville au monde où des syndicalistes en grève se plaignent d'être pris en otage. La bronca s'élève et les discours sont stoppés sous les colibés de centaines de personnes qui n'acceptent pas cette décision. Le cortège repart, laissant sur la dite place de la Comédie, CGT, FO, FSU. La CNT et Solidaires poursuivent la marche jusqu'à la place de la Bourse où elle sera dispersée par la police. Une nasse de plusieurs heures retiendra une centaine de personnes, bloquant ainsi le tramway ainsi que la circulation sur les quais.
cette détermination à continuer le mouvement avec force, elle s'exprime partout en France ce 15 septembre. À Tours, à Marseille, Rennes, Le Havre, Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Châteauroux et bien sûr à Nantes. On vous propose maintenant un bout de récit de cette manif, écrit par Nantes Révolté.
C'est à 10h que les choses sérieuses commencent. La foule s'agrège à la croisée des trams. Alors que les médias s'acharnent à siffler la fin du mouvement, plusieurs milliers de personnes sont encore dans la rue pour cette manifestation de rentrée. Au plus fort de la matinée, 5 à 6 000 personnes tiendront la rue malgré la militarisation de l'espace. La colère est tenace. C'est lorsque le cortège s'ébranle depuis Commerce, après quelques discours, que la police se déploie. Des dizaines de policiers enserrent la manifestation, collés au défilé. C'est une mâchoire de boucliers et de matraques prête à se refermer à tout moment qui enserre la foule. Un essendum de la BAC, entièrement cagoulé, ouvre le bal et comprime littéralement le cortège de tête. Des lanceurs de balles prêts à faire feu seront braqués tout au long du défilé sur la manifestation. Il suffit qu'un fumigène crépite pour que des policiers menacent ouvertement le cortège, jouissant de leur puissance d'intimidation. Le contrôle des corps est total, l'oppression sensorielle aussi. Le bruit de l'hélicoptère, le contact des boucliers, la sensation d'étouffement et bientôt, l'odeur des gaz. De vieux manifestants nantais discutent. Je n'ai jamais vu ça. On se croira en Allemagne de l'Est. Les nuances de gris des plaques protégeant les vitrines doivent donner la tonalité du parcours. Malgré cette pression inédite à Nantes, les plus téméraires se faufilent pour décorer les murs. D'autres tentent de repousser une ligne de gendarmes. Le cortège de tête est diffus, mêlant drapeaux, syndicaux, banderoles renforcées, lycéens déter et silhouettes noires. Le dispositif policier irrite particulièrement un groupe de syndicalistes de la CGT qui acclamera bruyamment un tir bien ajusté, venu repeindre la visière d'un CRS. Arrivé à la préfecture, l'ambiance s'échauffe. Des vitres volent en éclats, des lances à eau arrosent le défilé pour le scinder en morceaux alors que la BAC se positionne devant les banderoles de tête. Avant d'être repoussé, tir de grenade, puis de projectiles. La sensation désagréable d'être coincé dans une cage, après une charge et des interpellations, le cortège se recompose et repart. Un manifestant vient de recevoir un projectile policier qui lui a ouvert l'arcade. À quelques centimètres près, il perdait un œil. Chance que n'a pas eu un manifestant éborgné quelques heures plus tard par un éclat de grenade à Paris. Rapidement, le parcours officiel se termine au point de départ de la manifestation. La préfecture avait annoncé la répression brutale de toute tentative de continuer le défilé. Moment de flou, la foule ne se disperse pas tout de suite. Nouveau tir de lacrymogène, nouvelle charge de la BAC qui braque ses armes sur le rassemblement. Une jeune femme avec un drapeau CGT se fait insulter par des flics cagoulés. « Sale poufiasse, je vais te défoncer ». Finalement, les policiers en civil doivent se replier derrière une ligne de gendarmes. Une interpellation est empêchée par l'intervention de manifestants. Les derniers courageux repartiront au compte-gouttes, autour de 13h. Deux heures plus tard, l'hélicoptère réapparaît dans le ciel de Nantes. Une cinquantaine de lycéens tentent de partir en manifestation sauvage. Le tram est à nouveau bloqué. Vite encerclé par une marée de policiers, la tentative avorte. Mais ce n'est que partie remise. Et si ce 15 septembre n'a pas forcément été à la hauteur des espoirs débordants suscités par l'agitation prolongée du printemps, la contestation est loin de s'éteindre à Nantes, Paris, Rennes et ailleurs, malgré une pression policière qui n'a jamais été aussi intense. Pour continuer le début, il s'agira de rester insaisissable, imprévisible, joyeux et déterminé. À l'abordage.
Toujours au sujet du mouvement, on va maintenant vous parler d'une des 5 personnes incarcérées dans le cadre de l'enquête sur la voiture de police brûlée le 18 mai à Paris. Elle s'appelle Cara Wilde, elle est américaine et trans. Elle est incarcérée dans une prison pour hommes, à Fleury-Mérogis. Le CITIAG raconte son isolement, ses conditions de détention et les agressions subies quotidiennement. En voici un extrait.
Un traitement bien particulier est réservé aux femmes trans incarcérées à Fleury-Mérogis. La présidente d'AccepteST, Giovanna Rincon, a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Cara Wilde et les autres détenues trans et nous affirme que les personnes trans sont logées dans un quartier au régime spécifique. Elle se retrouve dans les conditions de l'isolement au 4e étage du bâtiment Détroit, qui sonne comme détresse en espagnol. Giovanna Rincon nous confie que Cara Wilde se dit rassurée et étonnée de ces conditions. Pour son avocate, cet isolement préserve son intégrité physique et morale d'une certaine façon. Elle insiste sur le terme isolement comme un regret de devoir en arriver là. Cette procédure particulière pourrait bien mettre les femmes trans dans une situation inconfortable. En effet, c'est dans cet étage que sont également incarcérés ceux qui sont considérés comme islamistes radicaux, dont Salah Abdeslam. Le risque que les détenus trans aient à les croiser n'est pas à écarter. Cependant, tout est mis en place pour que les autres détenus ne soient jamais en contact avec les personnes trans. Mais pour Giovanna Rincon, habituée à l'univers carcéral trans, les choses ne sont pas aussi simples. Elle pointe par exemple le problème de la descente des 4 étages pour accéder aux salles de soins. Elle affirme qu'à ce moment-là, les personnes trans peuvent passer devant les autres détenus et il arrive parfois que des milliers d'insultes fusent. Les conditions de détention particulières de Cara Wilde, selon Jemaine Arrington. Cara Wilde se porte plutôt bien. Elle s'occupe de l'esprit grâce à sa passion, le dessin et la peinture. Mais ce sont ses seules activités. Son avocate, Maud Kornman, revient avec nous sur ses passe-temps. En tant que personne trans, elle subit un véritable isolement, explique-t-elle. Son régime de détention spécifique ne donne pas accès à l'ensemble des activités proposées. Elle n'a pas accès à la salle de sport, ni à la cour de promenade, par exemple. À l'instar des autres détenus, qui peuvent profiter de la cour de Fleury-Mérogis, les personnes trans n'ont accès qu'à une petite pièce sans toit au dernier étage de la prison, dans un état insalubre, où le sol est jonché d'excréments de pigeons. Et elle compare ça à une... Excusez-moi, je me suis perdu. Elle compare cet endroit lugubre à une cage. Et Maud Kornman dit, entre guillemets, donc, son régime de détention spécifique ne donne pas accès à l'ensemble des activités proposées. Elle n'a pas accès à la salle de sport ni à la cour de promenade, par exemple. De plus, elle n'a pas accès à la bibliothèque d'une demi-journée par semaine, indique l'avocate. Mise bout à bout, ces activités représentent à peine une journée et demie d'occupation par semaine. Là se greffe une autre problématique, la barrière de la langue. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est la problématique des traitements hormonaux. Jovanna Rincon a remarqué une angoisse persistante chez elle et les premières semaines. Quand elle n'avait pas accès à son hormonothérapie, excusez-moi, elle semblait perdue. C'est un sujet qui revenait quasiment constamment. Depuis, elle confirme qu'elle n'a pas pu y avoir accès. Mais notamment grâce au soutien d'Acceptes et à l'action de son avocate. La directrice de l'association nous confie que le délai pour obtenir la délivrance des traitements hormonaux peut être aléatoire. Et de par son expérience, elle confirme que cela peut être aussi long qu'un délai de 3 mois à 6 mois.
Et donc Cara Wilde attend toujours une date pour son procès et elle pourrait rester encore 2 ans en détention provisoire. Toujours à propos des conditions de détention, un mouvement national de protestation des détenus est en train de naître depuis 3 jours aux États-Unis. Il a été lancé le jour de l'anniversaire du soulèvement de la prison d'Attica en 1971, la rébellion carcérale la plus importante de l'histoire du pays. Aujourd'hui, dans 40 prisons américaines, des détenus se sont mis en grève. Ils dénoncent le travail obligatoire, peu ou pas rémunéré, mais aussi l'isolement, les abus des gardiens, les carences en soins médicaux. Et on reviendra en détail sur ce mouvement plus tard dans l'émission. En France aussi, une mutinerie s'est organisée lundi dernier à Poitiers, à la prison de Vivonne. Des détenus auraient réussi à prendre la clé d'un gardien. Ils ouvrent alors toutes les cellules du deuxième étage, puis un incendie se déclare. Quelques heures plus tard, l'IRIS de Bordeaux et la gendarmerie matent la rébellion. Dans les médias, pas d'explication sur les raisons de cette mobilisation. On va donc vous lire l'extrait d'un article du site L'Envolé, qui nous donne quelques pistes pour comprendre.
Traité comme un simple fait divers, cette information sera oubliée demain et aucun journaliste n'aura donné la parole aux premiers concernés, les prisonniers et leurs proches. Comme toujours, ils ont relayé en cœur la voix du ministère de la Justice et d'un syndicat de surveillants. Mais quand les prisonniers et prisonnières se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de détention ou simplement pour réclamer un peu d'air, rien qu'en faisant une pétition, ils prennent de gros risques. Alors quand ils font brûler la prison... À Poitiers comme ailleurs, les prisonniers et prisonnières ont de nombreuses raisons de se révolter. Ce que nous connaissons de la prison de Poitiers-Vivonne depuis son ouverture, c'est entre autres la pratique de fouilles à nu systématiques, qui est pourtant illégale, le harcèlement nocturne des détenus particulièrement signalés, DPS, le passage à tabac de prisonniers, dont les plaintes ne sont ensuite pas prises en compte, la répression des moindres revendications, le passage au tribunal de prisonniers accusés abusivement par des surveillants de violence ou d'outrage. Nous savons que suite à ce genre d'événement, la répression est très dure. Pour effrayer la population carcérale et lui faire passer l'envie de broncher, il faut désigner des meneurs, les isoler et les condamner à de lourdes peines. Comme d'habitude, cette sanction judiciaire sera précédée en interne de tabassage, de chantage à la délation, de mise au mitard et de transfert loin des proches. Appel à information et récit. De l'extérieur, c'est à nous tous et toutes de rester attentifs, de montrer notre solidarité, de chercher et de relayer information et récit direct. Les médias disent que 2 personnes ont été placées en garde à vue. Il est important d'aller, si on le peut, au tribunal local pour suivre d'éventuelles comparutions immédiates, montrer sa solidarité, prendre et faire circuler des informations sur les suites judiciaires de la mutinerie. C'est en brisant la loi du silence imposée par l'administration pénitentiaire que commence la solidarité avec les mutins.
Et on continue avec des nouvelles de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mercredi, le dernier obstacle administratif avant le début des travaux a été levé. deux arrêtés de la préfecture de Loire-Atlantique ont été publiés. Ils autorisent le déplacement et la destruction d'une espèce protégée, le campagnol amphibie. On laisse Sud-Ouest vous raconter la suite.
Muni de ces deux actes administratifs, le concessionnaire de Notre-Dame-des-Landes, aéroport du Grand Ouest, AGO, une filiale du groupe Vinci, peut faire son affaire du fameux campagnol puis démarrer les travaux. Le calendrier est somme toute conforme à ce qu'avait annoncé Manuel Valls fin juin après le référendum local. Soigneusement limité aux électeurs de Loire-Atlantique pour limiter les risques de rejet, qui avaient dégagé une majorité favorable à ce projet vieux de 50 ans. Le Premier ministre s'était alors engagé à faire appliquer le verdict des urnes en évoquant l'automne pour la phase de travaux préparatoires. Nous sommes dans les temps. Reste que l'espèce la plus farouchement attachée à l'entreprise, à l'emprise aéroportuaire, n'est pas le campagnol amphibie, mais le zadiste. Un mammifère bipède qui n'est ni protégé, ni en voie d'extinction. Depuis plusieurs années, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, zone d'aménagement différé devenue zone à défendre, est occupée par des opposants très déterminés qui avaient mis en échec une première tentative d'évacuation musclée à l'automne 2012. Le piteux ratage de l'opération César, chapeauté par le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Manuel Valls, n'a jamais été digéré par l'intéressé qui ne rêve rien tant qu'un match en retour. Cette partie promet d'être encore plus compliquée que la première. Très bien organisés, les zadistes peuvent s'appuyer sur des réseaux prompts à leur fournir des renforts évalués à plusieurs centaines de personnes dès qu'un casque de CRS brillera au loin sur le bocage. S'ils accaparent l'attention médiatique, les zadistes, d'essence jeune et anticapitaliste, ne sont pas les seules forces en présence. Des agriculteurs et des habitants expropriés de la ZAD sont décidés à résister aux forces de l'ordre en cas d'intervention. Ils sont notamment soutenus par la Confédération Paysanne, qui a déjà sorti les tracteurs par le passé pour dénoncer le projet.
Et la prochaine date de mobilisation, ce sera donc le 8 octobre. On finit cette revue de presse avec un fait divers, raconté bien sûr par Sud-Ouest.
Alors, fait divers. Deux intrus retrouvés ivres et endormis dans les toilettes de Bordeaux Métropole. L'alarme s'était déclenchée dans la nuit, mais ils étaient restés introuvables. Ce sont les services d'entretien qui les ont découverts au petit matin. L'un porte un bracelet électronique. Vers 1h30 dans la nuit de mercredi à jeudi, l'alarme signalant une intrusion a retenti dans le bâtiment de Bordeaux Métropole, situé dans le quartier de Mériadec à Bordeaux. Aussitôt, les vigiles se sont lancés à la recherche du ou des intrus, vérifiant toutes les portes, allumant la lumière dans les couloirs, fouillant les bureaux, grimpant les étages, en vain. Les cambrioleurs étaient-ils cachés quelque part? Étaient-ils repartis dès le déclenchement de l'alarme? C'est seulement au petit matin que ces questions ont trouvé réponse. En faisant le ménage, des agents d'entretien ont entendu un drôle de bruit qui parvenait des toilettes pour dames du 15e étage, celui où se situe le bureau d'Alain Juppé.
Oh.
Un bracelet électronique. Oh là là. Ouvrant la porte, elles ont découvert deux hommes qui cuvaient et ronflaient. L'un d'eux ne pouvait cacher la présence d'un bracelet à sa cheville, ce qui a brièvement inquiété sur la nature potentiellement explosive de l'objet. Mais il s'agissait d'un bracelet électronique, tout simplement.
Ouf.
Les deux hommes, un Mérignacais de 42 ans et un Marocain de 39 ans, ont été réveillés et interpellés. Une enquête a été confiée à la brigade de sûreté urbaine de Bordeaux. Placés en cellule de dégrisement en raison de leur imprégnation alcoolique, les deux hommes ne se sont vus notifier leur placement en garde à vue qu'en fin de matinée hier. Ils ont assuré avoir seulement voulu se reposer. De fait, aucune trace d'effraction n'a été relevée et aucun vol n'est à déplorer. Malgré ça, Bordeaux Métropole a déposé une plainte et entend renforcer le dispositif de fermeture de ses locaux. Le parquet a décidé d'un classement sans suite dans ce dossier. Le Marocain a été remis en liberté, le Mérignacais doit quant à lui être déféré. Il n'a en effet pas respecté ses obligations de liberté conditionnelle.
Salut.
Alors, maintenant on enchaîne avec un reportage de Doc Durel sur la lutte qui se passe à Bure. Bure, un petit village dans la Meuse, où s'organise pas mal de monde contre CIGEO. CIGEO qui est le centre industriel de stockage géologique, autrement dit mettre sous terre des résidus nucléaires. Cela fait un bon bout de temps que la lutte a commencé et ce reportage, qui dure à peu près une petite vingtaine de minutes, se propose de tout remettre en place.
Les sociétés humaines sont exposées à des risques. Face à ces risques, les hommes mettent en place des dispositifs de prévention et de protection. Avec l'industrialisation depuis le 19e siècle, l'affirmation de la société de consommation et la mondialisation des échanges, ces risques se sont multipliés. Les déchets radioactifs sont produits par de nombreux secteurs d'activité qui utilisent les propriétés de la radioactivité. La radioactivité de ces déchets peut présenter un risque pour la santé. Ils doivent donc être gérés de manière spécifique afin de les isoler de l'homme jusqu'à ce que leur radioactivité ait suffisamment diminué et ne présente plus de risque. Depuis près de 30 ans, les scientifiques et les ingénieurs de l'ANDRA ont donc commencé des études et en particulier ont exploré le territoire français afin d'identifier un site géologique dont les propriétés particulières permettent de retarder et de limiter la radioactivité contenue dans les déchets.
Bure, si je ne me trompe pas, c'est 80 habitants, quelque chose comme ça. Et Mandran-Barrois, qui est donc l'ancien village propriétaire de du Bois-le-Jus, c'est quelque chose comme 120-130 habitants. Donc c'est vraiment des minuscules villages où il n'y a absolument plus rien en termes de petits commerces, de boulangerie, épicerie, tabac.
Il faut savoir que l'ANDRA avait essayé de s'implanter sur différents territoires. Dans ces territoires, la Corrèze, comme le Maine-et-Loire, il y avait des traditions de lutte, il y avait aussi des résistances locales très très fortes. Et en Meuse, à cause de la désertification rurale, il n'y avait plus personne et du coup, ils ont pu s'implanter. Ce n'est pas les caractéristiques géologiques de la Meuse qui les intéressent, mais plus l'acceptabilité sociale. En fait, ce qui détermine leur projet, c'est les conditions d'acceptabilité sociale. Et vu que là, il y avait 7 habitants au kilomètre carré, qu'il y avait une résignation très forte liée à l'exode rural, où il y a aussi un modèle agro-industriel qui s'est développé, donc qui a fait vider les paysans des campagnes.
Après une occupation de 3 semaines, un appel à réoccuper le Bois-le-Jus est lancé le 16 juillet 2016. Malgré la présence policière, des centaines de personnes arriveront à entrer dans le bois.
À l'ANDRA, c'est une société d'État qui a comme politique de gérer effectivement des déchets. Des déchets issus effectivement de cette nucléarisation civile et certainement peut-être à terme militaire.
Donc là, tout ce qu'on voit ici, en fait en dessous, il y a une vie souterraine, c'est ça?
Oui, il va y avoir des galeries, effectivement, une myriade de galeries, puisque à terme, ça serait 160 km de galeries. Donc ces galeries, le gros problème, c'est dans le temps maintenir la maintenance de ces galeries. Quand je dis dans le temps, c'est-à-dire sur des centaines d'années, des milliers d'années, quoi. On nous dit oui, mais c'est du béton, c'est des galeries qui sont faites effectivement dans certaines conditions. Mais pour l'instant, quand on voit des ouvrages de ponts ou des centrales nucléaires au bout de 40-50 ans, n'importe quel béton s'use, vieillit, les armatures se rouillent, il y a des fissures, il y a des cassures, il y a des infiltrations d'eau, il y a des donc immanquablement on peut pas se lancer sur des projets sur des centaines voire milliers d'années, c'est simplement un leurre.
Là les keufs ils sont en train de bloquer. Il y a un moment ça serait bien qu'on aille à la clairière aussi parce que là les keufs ils bloquent sur les 3 copains qui sont dans les mains.
Tu veux dire quoi?
Non, il y a personne de femme, je peux les voir les gens qui sont là. Et il y a personne de femme.
Est-ce que tu sais si la réunion l'AG de 11h elle est maintenue?
Est-ce que tout le monde a au moins un binôme ou quelqu'un qui peut, avec qui il peut être safe?
Non,
non,
qui n'a pas de binôme?
Allez mec, par là. Non, il y a les keufs qui arrivent par la forêt, il faut qu'on fuit ensemble. À gauche.
Non,
là c'est fini, c'est mort. Ça va, on va aller.
Mais c'est pas la peine, il y a les excités.
En 2005, le projet était à 16,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, l'ANDRA l'évalue à 34,5 milliards d'euros. Et on a un arrêté de la ministre Ségolène Royal du 15 janvier 2016 qui fixe l'objectif à ne pas dépasser à 25 milliards d'euros.
En amenant le laboratoire, on savait que CIGEO allait suivre. Mais quand on disait ça à la population, on ne nous entendait pas. Et puis bon, comme la population, elle est arrosée par des millions d'euros, même l'entrepreneur, même le boulanger de Ligny-en-Barrois, ils reçoivent de l'argent. Donc tout le monde se tait. Tout le monde se tait parce qu'il y a l'argent qui dégouline et puis il y a les postes qu'on promet. Donc ils s'arrangent aussi pour me filer un poste de veilleur de nuit, un poste de ménagère, enfin de comment que ça s'appelle, technicien de surface, tu vois. Et on muselle les gens comme ça.
Tu le verras plus.
Ouais, wow. C'est fat.
Non mais c'est aussi
beau. Ah, mais c'est avec tout ce qu'on peut.
On les bouche.
Ouais, c'est réglé quoi, il n'y a plus de machine quoi.
Ils ont commencé à construire ce mur après l'expulsion de la première occupation de la forêt. Du coup, au début, ils avaient juste mis une... En fait, ils avaient défriché une partie de la forêt et ils s'étaient servis de certains arbres pour commencer une clôture, en fait, tout autour des... Alors, ils avaient fait une saignée de 7 km et du coup, ils mettaient un poteau avec des barbelés rasoirs tous les 3 mètres. Et du coup, ben, comme ça n'a pas suffi pour nous empêcher de venir dans le bois, il fallait quelque chose de plus robuste.
C'est la première fois en fait qu'une agence nationale qui n'a pas encore créé le projet, c'est-à-dire qui n'a pas encore créé CIGEO, qui n'a pas encore créé la poubelle, eh ben, inonde d'argent public la région pour faire accepter le projet. Donc oui, c'est sûr, quand on se balade à Mandron-Barrois, tu peux voir des lampadaires flambant neufs, d'un rouge clinquant, une salle des fêtes qui vient d'être refaite en fait, et puis tout ça a été payé par l'argent du GIP, donc c'est une manière d'acheter les consciences.
Durant 2 jours, les opposants au projet CIGEO tenteront de voir et d'accéder au mur construit par l'ANDRA. Protégés par des gardes mobiles, des vigiles et un hélicoptère, ils n'y arriveront pas.
Je panique pas, je suis le truc calme, je suis juste un peu plus.
Mais cette corruption, elle se voit aussi dans les hautes sphères, avec les hautes administrations françaises, avec les grandes entreprises du CAC 40, enfin c'est tout un entre-soi, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont fait Polytechnique, qui ont fait X-Mine, enfin c'est tout ce réseau-là en fait qui gravite et autour des sphères économiques et politiques, quoi.
L'occupation, ça a quand même pour eux été une assez grosse surprise, le fait que ça tienne, le fait que ça attire beaucoup de gens de partout, de Paris, mais surtout aussi du Grand Est, de Verdun, de Metz, de Nancy, etc. Ça a attiré beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus dans la lutte de Bure avant. Ça, c'est super important à dire, je pense. Et je pense qu'ils ont été surpris par ça. Et aussi par le fait que ça attirait pas mal de médias qui commençaient à visibiliser la lutte de Bure, qui était avant totalement inexistante, quoi.
Donc ils ont attaqué sans... Enfin, on était très peu, on était que 3. Et ils ont commencé à arriver, on s'est dit que ça devait être un tour de relais. Et finalement, ils sont arrivés vraiment en nombre. Donc on a juste eu le temps de revenir à la barricade sud pour prévenir les autres au talkie-walkie. Et le temps que les gens arrivent, ils avaient déjà pris le contrôle de la barricade sud, pris les affaires. Et ils étaient en train de reculer quand on a pu reprendre la zone en fait. Et du coup on a perdu pas mal d'affaires, on a réussi à en sauver. Et du coup là on est un peu, c'est un peu tendu quoi, c'est un peu une guerre de position.
Attention !
Faites attention, il y a une barricade derrière nous, sortez le mettre derrière.
Donc la manif du 16-17, on a pu occuper le bois qu'en partie. C'était une victoire partielle. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la présence de vigiles, en fait, de vigiles mercenaires que tu n'arrives pas tellement à différencier des gendarmes mobiles. Ils ont des casques, ils ont des boucliers en plexiglas, des matraques, des manches de pioche, des gazeuses, et qui pouvaient se permettre de frapper avec des manches de pioche des militants. Et à un moment, j'étais à la maison de la Résistance et je voyais défiler les gens avec des éclats de grenades, des tirs de flashball. Ouais, c'était un week-end assez violent. C'était très dur, en fait. Et en même temps, c'était un acte politique fort aussi qu'on avait posé, quoi.
Oui, la phase pilote, c'est une stratégie de communication de l'ANDRA, qui est un terme, du coup, aussi juridique. Mais aujourd'hui, on est déjà dans les travaux préparatoires de l'ANDRA. L'ANDRA a commencé ce défrichement en juin et n'a pas de fait de demande d'autorisation pour les effectuer. Alors qu'au titre du code forestier, dès qu'on a un défrichement supérieur à 10 mètres carrés, on doit demander une autorisation à la préfecture pour le faire.
Donc du coup, clairement, c'est l'ANDRA dans cette situation présente qui est dans l'illégalité.
Ah oui, tout à fait. On est sur un organisme qui n'est pas sa première illégalité et continue à réaliser des actions illégales du point de vue juridique, qui va très vite, beaucoup trop vite, et qui se croit absolument tout permis sur ce territoire et veut passer en force en imposant son projet à tout le monde.
À ce jour, l'ANDRA est tenu de remettre en état l'ensemble des zones défrichées dans un délai de 6 mois et d'obtenir une autorisation pour la suite de son projet. Le 25 juillet, des associations et des habitants déposent un référé contre le laboratoire et le début des travaux. Le 1er août, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc donne raison aux opposants antinucléaires.
Il va y avoir un enterrement à Mende, car il y a beaucoup de voitures. Qui enterre-t-on aujourd'hui ?
C'est un mariage ! Ouais ! C'est un mariage !
C'est un mariage ?
Je suis
je suis pacifique dans ma nature, mais quand on voit l'horreur de ce qu'on est en train de nous implanter ici, ben moi je deviens aussi, il y a des jours, j'ai aussi envie de détruire, quoi. Moi j'aurais envie d'aller faire exploser une bouteille de gaz quelque part, tu vois, dans le fond du laboratoire. Si on avait mené une telle lutte à l'époque, par rapport à la construction du labo, par exemple, moi je pense qu'on n'en serait pas là, tu vois.
Un mur, une masse, justice, deux, classe.
Mais ce mépris, il existe depuis le début, et depuis en fait la création de la filière nucléaire en France, si on fait un parallèle avec la manière dont a été imposé le parc nucléaire français en 1974 avec la commission Péan, ça s'est passé très rapidement. C'est-à-dire qu'un matin, un ministre appelle le directeur d'EDF, le premier ministre de l'époque, et dit « Vous voulez combien de centrales ?» EDF a dit donner son chiffre très haut, un chiffre très haut pour en avoir la moitié, et finalement le premier ministre a tout donné comme ça, a donné l'ensemble du parc nucléaire à EDF sans aucune concertation publique préparée et discutée.
En tout cas, jusqu'à il y a deux mois, j'ai l'impression que ce silence, il était vraiment dû à une sorte d'aplomb, quoi, et de sentiment de puissance. Alors, on n'a pas besoin de s'exprimer, en fait, on n'a pas besoin de se justifier, surtout on n'a pas besoin de se justifier, c'est ça qui est important. Et en fait, là, avec la confrontation avec les vigiles, les occupations qui leur obligeaient à construire ce mur, je lisais dans un article qu'ils ont même avoué eux-mêmes que c'était un peu une erreur stratégique, parce que un mur, c'est pas très discret, quoi, justement, et c'est un peu brutal comme mode d'action, et donc ça va pas trop avec ça, ça colle pas trop avec leur communication. Et donc je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est les pousser dans leur retranchement, les obliger à montrer leur vrai visage, quoi, un visage de grosse violence, d'utilisation de gros dispositifs de flics et de vigiles, la construction de ce mur de plusieurs centaines de milliers d'euros, la destruction donc accélérée de la forêt sans autorisation. Ça, c'est en fait par notre action offensive qu'on a réussi à l'obtenir. Le fait qu'il y ait pas de, qu'ils soient obligés de construire ce mur sans autorisation, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps. Ils voulaient absolument protéger leur chantier de merde et il fallait absolument qu'ils construisent un mur très vite, quoi. Et donc, je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire. C'est aller sortir de ce foutu silence, de ce retranchement, de cette position d'aplomb comme ça, intouchable, quoi.
Quelqu'un derrière ?
Les hélicoptères aujourd'hui sont équipés comment ? Ils sont équipés comment ? Ah bah ils sont équipés avec des appareils qui leur permettent de prendre des photos zoomées, donc de reconnaître les visages et également d'apercevoir en fait quand là par exemple on est dans la forêt, donc on est censé se sentir en sécurité parce qu'on est caché par les feuillages. En fait c'est absolument pas le cas parce que certains sont équipés de capteurs thermiques, donc il y a pas de reconnaissance en fait des corps si ce n'est l'enveloppe corporelle, mais du coup ils savent en fait où on est dans la forêt, donc ils voient à peu près combien on est, qu'est-ce qu'on y fait, comment on se meut dans le bois.
Ambra dégage, été d'urgence, troisième manche, 3-0, 3 pour les pirates, 0 pour...
filière nucléaire et les politiques qui soutiennent en fait cette manière de fonctionner ont en fait tout à y gagner de montrer qu'on a enfin trouvé une possibilité de gérer ces déchets pour pouvoir en fait continuer de vendre des produits liés au nucléaire à l'étranger et du coup d'alimenter en fait la filière, enfin de continuer à prendre des ressources dans des pays en Afrique. Enfin, en fait, il n'y a pas que l'aspect écologique, moi, qui me dérange. En fait, il y a aussi l'aspect domination technologique d'un pays comme la France sur des tonnes de pays qu'on dirait en développement, à qui on continue de piller des ressources. Et puis, parfois, on réfléchit aussi à les refouler nos déchets chez eux.
Ici, on est à la fin de la chaîne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, même quand on s'attaque de toute façon à la fin de la chaîne, on s'attaque aussi au reste parce que CIGEO est là justement pour légitimer et permettre surtout la poursuite du nucléaire. Parce que voilà, on dit, les pays à qui on veut vendre le nucléaire, ils disent, ah mais comment on fait pour les déchets? Ah mais vous inquiétez pas, on a CIGEO, ça va venir quoi. Et du coup, en arrêtant CIGEO, on dit, ah ben non, il n'y a pas de solution nucléaire. En fait, toute cette production, elle a pas de sens, elle est insoluble, elle est ultra dangereuse. Et donc à ce moment-là, en fait, dès qu'on s'attaque à un maillon, on s'attaque au reste de la chaîne.
Donnez-moi votre autorisation. Voilà. Maintenant, vous circulez, s'il vous plaît.
C'est le travail, monsieur Jomino.
Vous circulez, s'il vous plaît. Moi aussi, je fais mon travail. Derrière là-bas, derrière les véhicules.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on.